Alors, bienvenue, on est dans le cours Homme-Sœur et puis on complète, il reste quelques commentaires sur la leçon de la semaine dernière, puis on attaque la prochaine leçon qui est l'étape intermédiaire dans les fréquentations. Je m'appelle Yannick Etier, vous pouvez trouver sur le site web les notes du cours et aussi les enregistrements audio. On va commencer avec un mot de prière. Eh bien, Père éternel, on veut te rendre grâce pour le plaisir de se retrouver en Église, Seigneur, pour apprendre ensemble à te connaître, à te servir, à marcher dans tes voies, dans des sujets des fois qui ont de la plus théorique et d'autres fois qui sont extrêmement concrets et pratiques, comme celui des fréquentations. Je te prie, Père, de m'aider à bien communiquer, à ne pas aller au-delà de ce qui est sage, Seigneur, de clarifier la pensée que je veux exprimer toujours. Je te prie aussi de disposer nos cœurs, Seigneur, à réviser, à revoir notre compréhension et notre pratique, Seigneur, des fréquentations. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Hey John, je vais improviser quelque chose totalement. Non, tu ne mets pas sur pause, mais tu vas avoir besoin d'un micro sans fil parce que tu vas prendre la parole dans quelques instants. OK? Je vais juste, dans le fond, on va juste partager un petit peu une ressource qu'on a dans l'Église. La semaine dernière, c'était la leçon 6. Ou 7. 7, hein? OK, juste un petit instant, je vais être avec vous. Je vais dans mes raccourcis. Voilà. Alors, si vous allez dans la leçon 7, pour ceux qui ont leur note, autrement, ce n'est pas nécessaire. On va aller complètement au bas de la leçon 7 et on va simplement compléter cette leçon-là. Et puis, en fait, je vais demander à John si tu peux venir en avant.
Un, deux.
Parce que Jonathan est impliqué dans le ministère de la famille, des couples, accompagnement pendant les fréquentations. On a cette habitude-là, l'Église de l'Espoir, depuis des années maintenant. En fait, avant qu'on déménage dans ce bâtiment-ci, on avait commencé à le faire, parfois avec des ressources plus limitées, parfois avec plus de ressources. Mais on avait commencé à proposer donc aux gens, lorsqu'ils commencent des fréquentations, assez tôt dans le début des fréquentations, à être accompagnés pendant leur fréquentation. Avec mon expérience de cours de préparation au mariage, tout ça, bien souvent les gens venaient nous voir comme 6 mois, 8 mois avant la date qu'ils auraient aimé pour se marier ou quelque chose comme ça. Ça fait déjà souvent 1 an, des fois 2 ans qu'il y a des fréquentations. Et dans le fond, ce qui constitue un peu le mode de relation dans les fréquentations, tout ça, beaucoup de choses sont déjà placées. Puis il n'y a eu aucun accompagnement à ce moment-là. Puis c'est comme si on commence le cours de préparation au mariage en devant déconstruire des choses pour pouvoir construire comme il faut. Et donc, on a eu l'idée de se dire, mais il y a ça, on va pouvoir suivre puis déposer des meilleures bases. Mais l'autre élément aussi, c'est bien sûr de donner un contexte de redevabilité. Parce qu'il y a bien des choses qui peuvent se passer dans des fréquentations qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et si on accompagne pendant les fréquentations, disons qu'on se donne plus de chances de prendre les bonnes décisions, de bien aligner nos fréquentations. Jonathan, avec son épouse, sont impliqués. Fait juste nous partager un peu comment vous faites, qu'est-ce que vous faites, juste pour donner une idée aux gens.
OK. Tu
n'as pas préparé.
Non. fait que dans le fond, on rencontre le couple, mais souvent, Nathalie et moi, nécessairement, on les connaît pas personnellement de prime abord. Fait que souvent, la première rencontre, c'est juste qui sommes-nous, qui êtes-vous, puis dans le fond, d'où on vient, un peu notre background, puis de savoir un peu notre cheminement, savoir comment est-ce qu'eux se sont rencontrés, comment est-ce que ça s'est développé. Puis même chose pour nous, dans le fond, encore là, c'est vraiment beaucoup plus informel comme première rencontre, puis juste apprendre à se connaître. Par la suite, dans le fond, ben là, souvent, on a du matériel qui se développe, justement, pour accompagner ceux qui se fréquentent.
Maintenant, c'est quoi les buts que toi, tu as en tête quand tu suis un couple pendant ces fréquentations? Quels sont les 2-3 buts que tu as en tête? Qu'est-ce que tu veux atteindre avec ça?
Mais ce que je veux atteindre, dans le fond, c'est vraiment de s'assurer qu'il y ait une transparence aussi dans la relation. Même en tant que dans les fréquentations, qu'il y ait cette transparence-là pour que vraiment les deux puissent arriver à prendre une décision éclairée. Mm-hmm. Parce que dans le fond, souvent on dit que tu as 3 décisions, tu as 3 options, je pourrais dire 3 outcomes.
Oui.
Dans le fond, dans tes fréquentations, soit que tu continues de, tes fréquentations à la fin, dans le fond, après un certain temps, dans le fond, c'est soit que je continue mes fréquentations avec cette personne-là, puis dans le fond, on va arriver au cours préparation au mariage par la suite, soit que je prends une pause, je prends un break, dans le fond, pour vraiment, justement, il y a des choses qui ont été mises en lumière, puis que là, peut-être que, OK, est-ce que c'est quelque chose que je suis prête à passer par-dessus, que c'est correct, ou bien, dans le fond, non, je trace la ligne ici, puis dans le fond, ça serait mieux devant le Seigneur, justement, prendre un temps de prière à travers tout ça, puis de chercher la face de Dieu avec des conseillers à l'extérieur aussi. C'est une chose aussi qu'on suggère aussi, que les personnes soient redevables à quelqu'un d'autre, qui est un coach.
Tu veux dire individuellement, personnellement?
Individuellement, exactement. Okay. Pour les aider dans ces décisions-là. Fait que soit de continuer, d'arrêter, ou bien...
De mettre fin.
De mettre fin.
Ouais.
Fait que soit, dans le fond, de continuer, de prendre une pause, puis de reprendre, encore là, dans un temps défini, puis ou bien, dans le fond, d'arrêter.
Qui compose, qui fait du suivi d'accompagnement dans les fréquentations? C'est qui les couples qui sont impliqués, puis ça peut ressembler à combien de rencontres? Je sais que c'est pas fixé, je pense pas que c'est ferme.
Mais dans le fond, comme je dis, dans le fond, à tous les couples, on s'adapte parce que du 6 à 8 mois, ça se fait encore aujourd'hui. Mais je veux dire, les fréquentations, on en a aussi que c'est plus long terme. Mais je suis perdu la question. Ah oui, OK. Fait que qui s'implique? Ben dans le fond, il y a moi et mon épouse. J'ai Jean-Sébastien Frérot et Caroline Collins. J'ai Marc et Sylvie Bélanger qui sont
somewhere.
Dans la salle à côté. J'ai Jean-Paul et Carole Gagné. Et j'ai aussi...
Il y avait Seb qui était là, mais il n'est plus là.
Non, j'ai fait le tour. Ouais, ouais. Ça. On okay. est quatre couples, dans le fond, okay. qui font les suivis en ce moment.
OK, super. Ben, merci. Merci. C'est une belle ressource. C'est une bénédiction pour les couples de pouvoir faire ça. Fait que vous le saurez, on a fait notre flash publicitaire. On espère bientôt sortir un dépliant, dans le fond, qui va présenter un petit peu comment on fonctionne de A à Z dans l'accompagnement, puis combien de temps, juste aussi faire signe au pasteur, plutôt que d'arriver et dire hey, « on a réservé la salle, on a réservé l'église, tu nous maries telle date? » Oui. On va chercher un texte, s'il te plaît, John. Merci.
Dans le fond, tu parlais aussi de temps. Je dis ça varie, justement, on s'adapte en fonction du time frame. Mais généralement, si on a le temps, on a à peu près une dizaine de modules, dans le fond, qu'on essaie de couvrir.
Dans l'accompagnement des fréquentations.
Dans l'accompagnement des fréquentations.
Puis après ça, quand ils sont prêts,
après ça,
ils ont
dans le fond,
une
dans le cours de préparation au mariage, dans le fond, là, ça varie entre 6 et 8. Mais encore là, dans le fond, comme avec certains couples qui ont des deadlines différents, on ajuste, on peut faire un suivi post.
Oui.
Dans le fond, mariage aussi par la suite.
Ça fait vraiment une belle équipe là, de conseils. Là. J'avais une conversation avec Jonathan cette semaine, Jonathan et Nathalie, où bon, il y a un couple, est-ce qu'ils sont prêts, ils ne sont pas prêts. Même on échange ensemble. Il y a des choses que moi j'ai vues quand je les ai déjà rencontrées une fois, mais John et Nathalie ont vu d'autres choses, puis là, on jase ensemble. Fait que, ça fait les gens sont bien entourés, je trouve, avec vraiment beaucoup de conseils. C'est pas parfait, évidemment, mais je peux vous dire que c'est des belles ressources pour ce que j'ai vu, j'ai pu voir ailleurs. Donc, on va passer à la prochaine leçon. À moins que vous ayez des questions juste sur ce point-là. Je ne prendrai pas de commentaires, mais plutôt des questions si vous en avez, juste sur l'accompagnement en fréquentation. Ça va? On va aller à la prochaine leçon. Oui, oh, excuse-moi, je ne t'avais pas vu, Flore. C'est une bonne question, la question de Flore. Comment est-ce qu'on procède lorsque la personne, une des deux personnes en fréquentation n'est pas de l'Assemblée ou peut-être même pas de la région? Mais bien honnêtement, il faut que ça relève d'eux de faire le sacrifice de se déplacer puis de venir faire les rencontres. Dans les dernières années, j'ai eu quelques situations où il y avait des fréquentations entre continents. Plus compliqué un petit peu dans ce cas-là, de vraiment donner de l'aide. Donc, c'est à eux vraiment de faire l'effort. Disons que c'est vraiment des serviteurs, là, l'équipe. Alors, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour jouer avec leur agenda, pour essayer de s'ajuster. Mais c'est ça, il faut choisir à un certain moment donné. Je ne pense pas qu'on l'a abordé comme ça. Si vous fréquentez quelqu'un qui est d'une autre assemblée, il y a un choix qui doit se faire à un certain moment donné. Tout ça va se vivre sous, avec l'accompagnement d'une des deux églises, pas les deux. Et des fois, c'est assez compliqué. Là. On a eu, dernièrement, on a eu Jérémy Lacasse, puis Sarah, qui se fréquentaient. Et puis, toutes les deux très proches du leadership dans leurs églises, bien entourées, tout ça. Fait qu'il fallu vraiment discuter, OK, Nicolas Côtenoir va prendre cette partie-là. Puis, fait qu'on a travaillé en équipe. Mais ça demande de faire le sacrifice pour la personne de venir, puis d'être suivi ici. Ce qu'on va faire dans ce temps-là, c'est qu'on va parler, jusqu'à présent, dans tous les cas, on va parler avec la personne ressource la plus mature dans l'autre assemblée. Souvent, ça va être le pasteur, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre que le pasteur, pour juste avoir un peu comme leur perception, leur expérience, qu'est-ce qu'ils connaissent de cette personne-là, pour ne pas partir de zéro pour faire ça. Ça va? OK. Alors, la leçon 8, l'étape intermédiaire dans les fréquentations, qui est, admettons, celle qui pourrait être la plus longue, d'accord? Et qui devrait servir à construire beaucoup de choses ensemble, à discuter ensemble beaucoup. Je ne vais pas prendre le temps de revenir sur toute la révision, simplement pour un facteur de temps, mais vraiment tout le texte est là dans les notes, d'accord? C'est très complet, là. On fait une petite révision de ce qu'on a vu jusqu'à présent au niveau des fréquentations. Dans l'étape intermédiaire, c'est là qu'on veut faire connaissance plus avant. C'est là qu'on veut poser des questions. Tous les deux, on sait qu'on est sérieux dans ces fréquentations-là. Alors, ce matin, ce qu'on va regarder ensemble, c'est davantage quel peut être le contenu de ça. Maintenant, comme je vous dis, si vous êtes accompagné par l'équipe qui fait ça, déjà, vous allez être accompagné, vous allez avoir de la matière, ils vont vous donner des sujets à discuter, mais... Ça, ce qu'on va voir ensemble ce matin peut juste vous permettre de vous projeter dans ça puis de voir le bénéfice, justement, d'être accompagné et de bien le faire. Dans un contexte chrétien, c'est là qu'on dirait, c'est là qu'on devient sérieux. Tu sais. La relation devient sérieuse, puis on veut aller de l'avant. D'accord? Alors, la question clé pour cette phase-là, que dois-je savoir sur cette personne pour décider de la marier? J'ai l'impression que je sais l'essentiel. J'ai pu observer beaucoup, surtout si elle est dans la même église. Mais en même temps, on va aller discuter d'un paquet de sujets ensemble. Qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir prendre une décision définitive et m'engager vraiment dans cette relation-là? L'équilibre qu'on veut chercher pendant dans ce moment-là, qui n'est pas facile, puis c'est pour ça que moi je crois beaucoup à l'encadrement, je crois beaucoup à une redevabilité, je crois beaucoup à avoir certains principes pour préserver, oui, la pureté de la relation, mais aussi simplement de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler des étapes, parce qu'il y a un équilibre à chercher. On veut pas agir comme si on était déjà marié. Fait que ça me fait pas rire, en fait, ça me fatigue vraiment toujours l'espèce d'idée que dès que des gens fréquentent sur Facebook, c'est « on est en couple ». Ah, vous êtes en couple, c'est intéressant. Fait que vous fréquentez. Vous serez en couple quand vous serez marié. Mais c'est parce que ça porte d'autres choses, cette affaire-là. Puis malheureusement, lorsque vous dites « on est en couple », on sait parfois que ça veut dire que vous êtes en couple. Vous n'êtes pas marié, mais vous êtes en couple. Bien au-delà de ce que la parole de Dieu voudrait. Puis l'intimité va trop loin. Donc, c'est une période où il faut essayer de faire attention. On n'est pas marié. On n'est pas marié. Puis là, il y a plein de couples qui se mettent justement à agir comme s'ils étaient en couple, mariés, tout ça. Mais ils ne le sont pas. Puis là, il y a une intimité qui se construit. Puis après ça, ils mettent fin aux fréquentations. Puis honnêtement, c'est scandaleux. C'est scandaleux de vivre des choses, une intimité qui est là, où il va y avoir une intimité sexuelle, il va y avoir une intimité romantique. Puis ces séparations-là sont pratiquement des divorces dans le cœur de l'individu. D'accord? Mais il n'y a jamais eu d'engagement définitif au mariage. Fait qu'il n'y a plus beaucoup de différence avec le monde. La seule différence, c'est que dans le monde, on fait ça 10 fois plus vite puis 10 fois plus souvent. D'accord? Et ça n'a pas lieu d'être. Il y a moyen de se protéger de ça. Et puis, l'autre élément qu'on veut garder à l'esprit, c'est qu'on est là pour prendre soin de l'autre. On est là pour chercher le meilleur des deux. Donc, c'est vraiment un dialogue. Je veux chercher, moi, est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je désire ce mariage-là? Puis l'autre personne, puis on cherche le meilleur de nous deux. C'est ça qu'on est en train de faire pendant cette période-là. Alors, quelques points à garder à l'esprit qu'on veut communiquer. Communiquer où est-ce que vous en êtes tout le long. Je veux dire, si à un certain moment donné, dans ce processus-là, pour un de vous deux, c'est de plus en plus clair que ça va être non. faut le faire. Faut le communiquer. Faut avoir le courage de faire ça. De pas rester, je vais le dire comme ça, coincé dans une relation. Parce qu'on n'ose pas le faire. Donc, communiquer où est-ce qu'on en est exactement. Puis ça va, si cette période-là dure un an, ben, ça se peut qu'à tous les trois mois, on prenne le temps de s'asseoir. Puis on dit, OK, est-ce que ça va? Oui, tu es en paix avec ça? Oui. Puis on tombe pas sur le cruise de, sur l'autopilote, là, qui OK, tu sais, on a comme notre routine, on fait nos petites sorties, on s'en va au cinéma, tout ça, il y a un petit peu de romance dans tout ça, puis finalement, on est en couple. Fait qu'on a notre petite vie de couple, on a nos petites habitudes de couple, mais en fait, on est en fréquentation, on est censé se préparer pour le mariage. D'accord? Fait que, moi, je vous dirais, quand même assez régulièrement, pas pour communiquer de l'insécurité, mais prendre le temps de communiquer où est-ce que vous en êtes. On va voir ensemble des sujets que vous pouvez discuter, que vous allez pouvoir aborder. Si vous êtes accompagné, ben, vous allez avoir encore plus de matière pour les voir. Ce qui est intéressant quand il y a un accompagnement, c'est que ce sont des couples qui ont plusieurs années de mariage. Et donc, c'est beaucoup du partage qu'on fait. D'accord? C'est comme, ça va dans les deux sens. Je vais t'aider à partager un peu comment est-ce que vous le vivez, puis lorsque Esther et moi, on va vous partager comment nous, on l'a vécu. Ça enrichit énormément, ça nuance, ça... Les choses sont moins comme coupées au couteau. On réalise que, oups, avec des personnalités différentes, ça va s'exprimer de manière différente. Et puis, il y a vraiment l'idée de conserver cette redevabilité-là pendant toute cette période-là. Communiquer où est-ce que vous en êtes. Je ne pense pas m'étirer sur ça, à moins que vous ayez des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ça va? Oui, John. Dans le suivi, vous le faites en bonne partie aussi, oui. Définitivement. C'est vraiment une bénédiction d'être accompagné pendant la fréquentation. Oui. Pose une question, Paul. Je vais te le dire. Oui, tu veux-tu y passer? Tu veux-tu passer à Paul, David? Juste, j'aurais pas à répéter.
Oui, c'est ça. Mais ma question, c'est que quand même, il y a des personnes divorcées dans l'Église. Qu'est-ce qui arrive dans un cas où... il y a eu un divorce entre deux personnes, il y a eu une distance, et puis hop, tout à coup, il y a quelque chose qui se réveille, puis il y a une réconciliation qui prend place, puis là, on commence à discuter de remariage. Est-ce que ça rentre dans le même cadre de suivi ou d'encadrement, là, si on peut dire ça, que des personnes qui se fréquentent, mais qui n'ont jamais été mariées?
C'est une excellente question. Je pense qu'on n'a pas eu assez de situations comme celle-là pour pouvoir dire qu'on a une méthode ou une approche, là. Mais bien honnêtement, mon premier réflexe, ce serait de les diriger vers du counseling biblique. Ce serait mon premier réflexe pour s'assurer que ce qui devait être guéri, ce qui devait être adressé, ce qui devait être confessé a été fait. Puis, dépendamment, on parle d'un couple qui a été suivi ou pas suivi. Fait que c'est quoi le... Sur quoi ils ont construit leur mariage au départ. S'il n'y a pas eu des bons fondements qui ont été déposés, j'aurais tendance à, possiblement que je sauterais l'étape de l'accompagnement des fréquentations, mais j'aurais tendance à les refaire repasser par le cours de préparation au mariage s'il n'y a pas eu un bon fondement pour qu'on construise comme il faut. Une des erreurs que moi je faisais, je viens à toi, ce ne sera pas long, François, une des erreurs que je faisais puis qu'on peut vraiment être tenté de faire, c'est par exemple avec des gens qui sont d'un... un petit peu plus avancé en âge, je ne sais pas, moi, 40 ans, 45 ans, puis qui sont seuls, puis là, oups, il y a un couple qui est en train de se préparer, il y a des fréquentations qui commencent, tout ça, puis là, on se dit, ouais, mais eux autres, ils ont du vécu. Et des fois, c'est les mariages les plus difficiles, parce que justement, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de choses qui sont très claires. Esther et moi, on s'est mariés, j'avais 21 ans. Fait que c'était pas facile, j'avais pas le nombril sec, je manquais de maturité, mais en même temps, j'étais hyper souple. Comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que j'attends, tout ça. Fait que c'est ça. Oui, je pense, dans bien des cas, même lorsque notre premier réflexe, ce serait de dire, pas de cours de préparation au mariage, admettons, souvent, il faut aller voir, oui, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme fondement? T'sais? Puis s'il n'y a pas eu un bon fondement, ça vaut la peine de le faire, de bien faire les choses. J'ai la même question quand j'ai quelqu'un qui m'arrive ici, puis il dit, pourquoi j'irais prendre le cours de membre? Ça me donne quoi de prendre le cours de membre? Je sais c'est quoi une église, tout ça. OK, si tu me dis que l'Alliance, tu pratiques ça à 100 % mon ami, peut-être que tu n'en as pas besoin, mais souvent, on a besoin de revoir les bases en soi.
Je suis surpris un peu de ta réponse. Si je me fie à la loi avec Moïse, le divorce, c'est quand c'est pratiqué, c'est quelque chose aussi fatal que le mariage. Autrement dit, on revient pas là-dessus.
Non, pas. Non, c'est pas ça que Moïse dit. C'est dans le cas où la personne va aller se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est possible de réconcilier un mariage lorsqu'il y a eu un divorce. Maintenant, si, dans le fond, ce que Moïse exprime clairement, c'est que si je donnais une lettre de divorce à mon épouse se marie avec quelqu'un d'autre, je ne la remarierai plus jamais, cette femme-là, même si elle devenait veuve. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais si j'ai donné une lettre de divorce à mon épouse, puis qu'on veut se réconcilier, il n'y a pas de prescription qui interdit à ce qu'on revienne ensemble. Même au contraire, dans le cas d'un Corinthiens 7, c'est pas clair que c'est un divorce, mais une espèce de séparation à un moment où Paul va dire si elle est seule, qu'elle demeure dans l'état où elle se trouve ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Je pense pas qu'il y ait un divorce de prononcé. Là, c'est pas clair. Il n'y a aucun docteur, il n'y a aucun théologien qui arrive à être sûr de ce qui se passe là. Mais donc, non, c'est possible de revenir ensemble. Dans la loi de Moïse, c'était dans le cas où la personne s'est remariée. C'est fini. En tout cas, tu pourras juste prendre le temps peut-être de revoir. T'avais-tu une autre question là-dessus?
Non, c'était un commentaire un peu spontané suite à sa question.
Oui, si tu veux, tu peux y aller. OK, c'était ça?
J'ai fait okay. Le commentaire.
Merci. OK. Donc.
J'ajouterais oui. Juste dans le fond que, aussi dans le comité, on a des, justement, J.S. Caro qui sont avec CCIF, puis aussi ça fait partie avec M. Mathieu Caron, dans les formations, dans le fond, que je vais chercher pour le comité, oui. D'aller chercher ces... Écoute, Mathieu a développé des modules, dans le fond, justement, pour...
D'accompagnement dans des situations comme ça.
Exactement, oui. Remariage, parce qu'on a on en a déjà eu.
Oui.
Ou soit, dans le fond, il y en a qui avaient déjà un kid par une relation antérieure.
Oui.
Fait que, justement, là, comment adresser, quel sujet adresser ou comment, justement, là...
Oui, c'est ça. Ce qui est plus commun, qui n'est pas commun du tout, mais qui arrive, c'est que la personne a déjà été mariée dans le passé, mais ce n'est pas les deux même qui reviennent ensemble. Là, la question de Paul était plus pointue. C'est ça. OK, on va avancer. C'est des bonnes questions, mais il y a une bonne partie aussi que c'est du cas par cas. Alors, les domaines à considérer, les domaines à discuter. Maintenant, je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit dans le cours, OK? On est dans un contexte où on a le privilège de choisir généralement avec qui on va se marier. Je vais te dire quelque chose, là, puis je suis sûr qu'un tiers d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Vous allez faire ça comme ça, puis dans votre cœur, c'est non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le fait de pouvoir choisir la personne avec qui je vais me marier n'est définitivement pas le plus grand facteur de succès de notre mariage. Définitivement pas le plus grand facteur de succès de notre mariage. Et dans le matériel qu'on va voir là, il y a un piège absolument énorme qui est là. Si je réponds bien à ces questions-là, puis je trouve le match qui fait que toutes les réponses sont bonnes, on est d'accord sur tout ça, notre mariage va fonctionner. C'est pas vrai, parce que la base du mariage, c'est pas les affinités. Là, je vais vous donner une illustration. Vous allez dire, c'est trop gros, ça n'a pas rapport à Yannick. Si c'est ça que vous croyez, vous n'avez pas encore compris c'est quoi le mariage. Jésus ne vous a pas choisi parce qu'il avait des affinités avec vous. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Puis si vous dites, mais c'est Jésus, Yannick, ça n'a pas rapport. Bien, l'affaire qu'il y a, c'est que si tu veux que ton mariage marche, il faut que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Fait que si tu pars là-dedans en disant, mais c'est Jésus, c'est pas moi, ça veut dire que tu n'essaieras pas de te rendre là. Mais le mariage qui fonctionne, c'est lorsque tu aimes comme Jésus t'aime. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pas sur la base des affinités qu'il y avait avec toi qui t'a choisi, je peux te le garantir. C'est super important ce que je dis là. Parce que ce qu'on voit ici, ça enrichit, mais ça peut vraiment appauvrir, ça peut vraiment fragiliser l'union du mariage. D'accord? Parce que je me suis pas marié avec Esther parce qu'on avait des affinités. Je me suis marié avec Esther parce que j'ai choisi de l'épouser. J'ai choisi de l'aimer elle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir, mais j'ai choisi de l'aimer elle. Je ne sais pas si demain elle va être encore la même personne. J'ai choisi de l'aimer elle. Je ne sais pas si elle va être en santé. J'ai choisi de l'aimer elle. Ça se peut qu'elle renie la foi, mais qu'elle veuille rester avec moi. J'ai choisi de l'aimer elle. Un point, c'est tout. Fait que dans mes fréquentations, je l'ai déjà dit là, Esther était capable de prendre ça. Ok, si elle est mariée avec moi, elle était capable de prendre quelqu'un d'un petit peu brut des fois. J'ai prétendu bien expliquer la chose, mais j'ai dit à mon épouse, Esther, j'ai la conviction que j'aurais pu être heureux avec n'importe quelle femme sur la terre. C'est sympathique, hein? Mais j'ai dit, chérie, c'est toi que j'ai choisi. Puis je pense que c'est ça que Jésus m'a dit. Je pense que Jésus m'a dit, Yannick, j'aurais pu prendre n'importe qui d'autre que toi, je te le garantis. Mais c'est toi que j'ai choisi. Fait que c'est sur la base de l'amour de Jésus pour moi. Pas que je suis extraordinaire, Yannick. D'accord? Esther comprenait ce que j'étais en train de dire. J'ai dit, chérie, je t'ai choisi comme une rose parmi les épines. OK? OK? Oui. Parce que je l'ai choisi. Oui, absolument. Parce que je l'ai choisi. Mais la base de notre amour, c'est pas qu'on a les affinités. La base de notre amour, c'est la décision. D'accord? Vas-y, Sam, t'as une question.
Je comprends ta mentalité, puis je suis en partie d'accord. Mais pour moi, ça crée des problèmes. Dans le fond, j'ai deux questions en une. De un, avec cette mentalité-là, pourquoi qu'on a des critères? De un. Et de deux, pourquoi qu'il y a des refus au niveau des fréquentations?
Parce qu'on vient... Mais c'est une bonne question, là. Je ne répéterai pas ta question, elle est déjà enregistrée. Mais c'est une bonne question. Ta question, c'est pourquoi il y a des critères? Pourquoi est-ce qu'il y a des refus? Parce qu'on vit à une époque où on a la liberté. J'ai la liberté de le faire. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « Je suis pas heureux à ma job, j'ai pas la job pour moi. » OK. T'as-tu la liberté de changer de job? Oui. Ben, change de job, bonhomme. C'est cool. T'as pas la liberté de changer de job. Tough, man. 90% de la population mondiale n'a pas choisi son travail. Ils sont heureux. Ils ont une job. Ils font vivre leur famille. Arrête-moi ça. Le taux de bonheur dans les mariages arrangés est plus élevé que dans les mariages choisis. OK? Mais si vous me dites, OK, d'abord, on va retourner au mariage arrangé, c'est pas prescrit dans la Bible que les mariages doivent être arrangés, puis je suis bien content d'avoir la liberté de choisir. Donc, je suis heureux d'être à mon époque puis d'avoir pu choisir, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai des critères? Parce que j'ai la liberté de choisir. C'est parce que j'ai la liberté. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau de penser que je vais être heureux parce que je réponds à mes critères. Tu as un travail, puis tu te dis... Je vais être heureux à mon travail parce que ce travail-là répond à mes critères. Non. Tu vas être heureux à ton travail parce que tu dis merci Jésus pour mon travail. Je peux travailler, je peux faire vivre ma famille puis je vais me donner à fond. Si je peux changer de travail, mais je vais le faire. Je suis dans un monde de liberté, j'ai la liberté de le faire. Mais c'est un luxe que la majorité de la population mondiale ne peut pas faire. D'accord? Donc, pourquoi j'ai des critères? Parce que j'ai la liberté de le faire. Le facteur de mon bonheur ne dépend pas de mes critères. Il dépend de mon attitude face à cette situation-là. Pourquoi est-ce qu'il y a des... Je vais juste répondre à ta deuxième question. Pourquoi est-ce qu'il y a des refus dans ce cas-là? Parce qu'on a la liberté de choisir. D'accord?
Mais dans le cas de... Quand, une fois marié, le choix n'existe plus.
Exactement.
Et donc, et c'est précisément là-dedans que tu dis que même avec notre liberté de choix, ça se brise.
Oui.
Même lorsqu'on n'a pas de choix, il y a une contradiction à quelque part. Là.
Non, c'est qu'après, je dois l'assumer. Fait que quelqu'un vient me voir et me dit, j'ai trouvé la femme de ma vie, c'est celle que Dieu veut pour moi. Wouh, super. Donc, il se marie.
Le problème, c'est qu'on ne s'assume pas.
Oui, on comprend pas le fondement de l'amour. Le fondement de l'amour, c'est une décision. D'accord? Alors, j'ai trouvé la femme de ma vie, waouh, c'est génial, tout ça. 6 mois après le mariage, c'était pas elle que Dieu voulait que je marie. Je suis désolé, man, moi, je connais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux avec celle-là. Tu l'as mariée. Ça finit là. Fait que, est-ce que Dieu s'est trompé? Dieu ne s'est pas trompé. Est-ce que Dieu peut faire le bien avec le mal? Bien, certain. Bon, fait que tu t'es précipité. Mais là, si tu suis le courant de la culture, je la sens plus. Fait que je la quitte. I don't feel it. Je ne suis plus là, moi. Je suis parti. Comprenez qu'on s'en va tout en enfer, hein, ce compte-là. Là. Parce que je veux dire, Jésus n'a pas besoin. Je ne pense pas que Jésus nous file tous les jours, là. Je suis pas sûr qu'il me file à toutes les secondes. Il me file juste sur la base de son amour pour moi. Fait que c'est super important. Je m'excuse, on a fait un grand détour, là, mais c'est super important. C'est un privilège qu'on a. C'est des choses qui peuvent faciliter la communion. J'écoutais hier un non-chrétien qui parlait sur le mariage, tout ça, puis il dit, vous savez, les mariages arrangés, c'est pas tout cette affaire-là, parce que tu choisis ton conjoint à un âge où tu te connais pas vraiment, alors que si les deux familles des mariés connaissent leur culture, connaissent leur héritage, te regardent comme adulte grandir, puis après ça, ils vont vous présenter l'un à l'autre, bien, ça se peut qu'ils comprennent mieux ce qu'il y en est. C'est pour ça que c'était super important pour moi de savoir que ma mère, elle disait, je pense que c'est un bon match à ce temps, Yannick. Je pense que c'est un bon match. En fait, ma mère était sûre que c'était le bon match avant que moi j'ai remarqué à ce temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais parce que ma mère me connaissait. Comprenez? Puis c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Des fois, les relations familiales sont telles que vos parents sont même pas présents pour conseiller ou peu importe, d'accord? Je suis pas en train de dire que je veux qu'on retourne au mariage arrangé. J'espère que vous me comprenez bien. Je suis juste en train de dire qu'il faut pas mettre la vertu là où elle n'est pas. D'accord? Il y a des bénéfices, il y a des privilèges qui vont avec la possibilité de choisir, mais le fondement d'un mariage, c'est la décision d'aimer l'autre. Et c'est avec ça que je vais construire à tous les jours. C'est sur cette base-là qu'on va voir ce mariage-là heureux. C'est bon? J'ai assez insisté. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. John est là ce matin, fait que vous pouvez l'accrocher. Il va vous dire qu'il n'est pas d'accord avec moi. Non, mais je vais dire ça, comme ça, ils vont aller te voir. John va pouvoir expliquer un petit peu plus ce point de vue-là. Il défend exactement le même que moi. Là. Mais honnêtement, là, c'est pas le même que Yannick. Là. J'espère que vous le voyez. Là. C'est clairement ça qu'il y a dans les Écritures. Là. Alors, de quoi on va discuter? Quels sont les buts dans la vie? Quels sont nos objectifs de vie? Quelle est notre vision? Où est-ce qu'on aimerait être plus tard? Qu'est-ce qu'on aimerait accomplir? Fait que j'ai de l'air de contredire tout ce que j'ai dit. Mais non, j'ai la possibilité, j'ai la liberté de faire ça. En restant à prier pour marier un pasteur. Mais vous voulez être sûr que je voulais aller dans le ministère. Mais, lorsqu'elle m'a épousé, elle ne savait pas si j'irais dans le ministère. Parce que c'était clair, entre Richard Roule et moi, lorsque je suis allé voir, elle m'a dit, Yannick, je vais commencer à te former, puis dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, l'Église te dira si tu es appelé dans le ministère. Donc, elle marie un gars, elle prie pour être mariée avec un gars qui va aller dans le ministère, je ne serai peut-être jamais dans le ministère pastoral. On est mariés, d'accord? Donc, on discute pour voir quels sont nos buts, quelle est notre vision, où est-ce qu'on veut aller. Un des sujets qui est super important, comment est-ce qu'on comprend la dynamique de couple, les rôles, les mandats de chacun. Alors, ce qu'on enseigne dans cette assemblée, c'est que l'homme et la femme ont exactement la même valeur devant Dieu, tous les deux. S'il y a de quoi, mon épouse a plus de valeur, parce qu'elle est plus précieuse à mes yeux que moi-même. En théorie, là, n'allez pas demander si elle vit ça tous les jours. Mais c'est vrai aussi avec nos enfants, d'accord? C'est vrai aussi avec nos enfants. Mais ce qu'on enseigne, c'est ce que les Écritures enseignent. Il y a certains contextes où l'homme et la femme ne sont pas appelés à jouer le même rôle. C'est pas comme ça partout. Dans le cadre du mariage, c'est le cas. Dans le cadre du mariage, l'homme est appelé à exercer un leadership dans cette union-là. L'épouse est là pour être une aide, pour venir l'appuyer dans son leadership. Là, comment est-ce qu'on vit ça concrètement? Comment ça se vit au quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ces rôles-là? Et donc, ça, c'est des choses à discuter à fond ensemble. C'est plus intéressant de le discuter lorsqu'on est accompagné parce qu'ils peuvent parler, eux, de leur expérience, comment ça se vit, quand tu vois ça, de quelle manière ça devrait s'exprimer. Mais je vous dirais que c'est un élément super important, d'où l'importance que je vous disais de voir que l'homme est capable de prendre certaines initiatives. Il se sent responsable de prendre des initiatives. Puis je ne ferai pas de la pop psychologie en vous disant, ben si le gars n'est pas ça, en général, les gars sont plus bébés, fait que Dieu a fait ça parce qu'il savait que les gars seraient plus bébés, fait qu'il leur a donné plus de responsabilités pour qu'ils se prennent en main. Mais des fois, ça ressemble un petit peu à ça. Puis, c'est de comprendre, mesdames, aussi, dans le dialogue avec un gars, est-ce qu'il y a une vision très, très rigide de la chose? Est-ce que dans sa tête, ça veut dire que parce qu'il est appelé à diriger, c'est son idée qui doit passer, c'est... Comment est-ce qu'il comprend le rôle de votre intelligence, de votre sagesse dans cette relation-là? J'avais une discussion la semaine dernière avec un couple. J'ai écouté le gars exprimer comme « c'est mon appel ». Puis ce que ça impliquait par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans la vie de son épouse, puis j'ai dit « man, c'est la pire théologie du mariage que j'ai entendue des dernières années, ce que tu viens de me dire là ». C'est mon appel de faire ça dans la vie, fait que mon épouse doit me suivre dans ça. Ton appel, mon vieux, là, c'est d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est ton appel comme époux. Fait que ça veut dire que tu vas faire un bon petit bout à l'écouter dans ce qu'elle est en train de vivre. T'sais, ça, c'est ton appel clair. À part de ça, est-ce que tu es appelé à être mécanicien dans le Grand Nord ou tu es appelé à être chirurgien à Montréal? Ouf, là, on s'en va plus dans le subjectif de la détermination de l'appel. Mais je vais te dire, ton appel clair, c'est mourir à toi-même pour servir, prendre soin de ton épouse. Ça, c'est ton appel clair. Tu es marié. D'accord? Fait qu'il faut dialoguer sur ça. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre les nuances un petit peu de ça ensemble. C'est important. Lorsqu'on a le privilège de le faire. Notre passé, les péchés du passé, de trouver le temps, de trouver le moment, de raconter notre histoire. Puis ça, c'est probablement une des affaires qui fait le plus peur aux gens. Moi, j'avais peur de ça. Esther était pratiquement sans histoire comparée à moi. Elle n'avait pas un lourd passé dans le monde. Elle avait ses histoires à elle. Elle avait son passé, puis j'avais le mien. Mais oui, c'est sûr, j'étais nerveux. J'étais nerveux quand je me suis converti. Moi, il faut que j'aille faire des prises de sang. Il faut que je vois c'est quoi mon histoire. Ça va me suivre jusqu'où. Est-ce que ma vie va être courte ou ma vie va être longue? Comprenez? Fait que ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à raconter. Puis ça, c'est important de le faire. Parce qu'on a le privilège de choisir, parce qu'on a le privilège de considérer, bien, si mon union avec Esther se construit sur ce privilège-là, entre autres, ça veut dire qu'il va y avoir de la transparence dans ça. Je ne veux pas qu'Esther se retrouve dans 2 ans à apprendre des choses de mon passé. Maintenant, ça se peut qu'elle en apprenne. Ça se peut que j'ai des choses de mon passé que je ne me rappelle même pas. L'autre fois, je l'ai évoqué, Caro avait posé une question. Ça se peut qu'il y a des choses là, que je me souviens juste de ça, là, mais quand on va aller commencer à fouiller là-dedans, je vais me souvenir de ça. T'sais. Puis on est mariés ensemble, puis il va falloir qu'elle vive avec ça. Il y a des choses de mon passé que je sais, mais je ne connais pas leur incidence sur l'avenir. J'aurais beau les confesser, je ne sais pas ce que ça va donner. D'accord? Oui? Ah, juste une petite seconde.
Effectivement, ceux qui ont un passé, il vient une étape, j'imagine, dans les fréquentations où est-ce que tu en parles, mais que tu n'en parles peut-être pas nécessairement au début, étant donné qu'on commence, puis que ben, tu ne veux pas compter ta vie à tout le monde non plus. Là.
Non. Exactement. Excuse-moi, vas-y. Je pense
non,
que t'avais terminé.
Ma question, c'est est-ce que dans les cours de fréquentation, justement, il arrive une étape où est-ce que tu dis, OK, tu sais, oui, on est prêt à franchir peut-être une autre étape où est-ce qu'on va un peu plus en profondeur?
Est-ce que vous l'abordez comme ça? Il y a un moment où vous abordez le passé, clairement?
Okay.
Rewind. Pas particulièrement, c'est vraiment dans le fond, au fur et à mesure que, de un, le couple se rencontre, dans le fond, puis ils discutent, puis que l'intimité se développe au fur et à mesure que l'engagement va savoir avec l'engagement. Fait qu'au fur et à mesure aussi, dans le fond, le couple va s'ouvrir. Fait qu'en même temps, ben nous, on est juste là pour s'assurer, dans le fond, que plus que ça l'avance, que oui, dans le fond, y a-t-il des choses qui ont été adressées ou qu'est-ce qui n'a pas été adressé? Y a-t-il des choses qui, oui, dans le fond, là, se fait, mettons, quand c'est des fréquentations d'un an, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Ben oui, il y a des choses qui devraient être adressées puis que, dans le fond, à travers les conversations, à travers les rencontres, ben ça fait partie, dans le fond, de s'assurer justement qu'il y a une transparence l'un envers l'autre puis que tu n'es pas en train de cacher quelque chose à l'autre, que ça va être une surprise avant, dans le fond, de demander l'autre en mariage.
Dans le, si j'ajoute à ça ce que je présente dans le cours, on est dans la phase intermédiaire. Fait que on est engagés toutes les deux à faire vraiment des fréquentations en vue du mariage à un certain moment donné dans ça. Fait que je le ferai pas dans les premiers pas, tu comprends? Fait que je vais garder ça pour un petit peu plus loin. Fait que oui, moi je dirais, c'est une espèce d'équilibre. Si ton histoire est telle que la personne ne peut pas prendre une décision éclairée sans la raconter, il va falloir à un certain moment donné que tu fasses le saut de la raconter, tu sais. Puis si, ce qui était mon cas, là, vous comprenez, là, je veux dire, j'ai été un peu gras dans mes images, là, mais je veux dire, c'était ça, là. Si Esther doit choisir en connaissance de cause, elle veut connaître la cause, je peux vous le garantir. Puis, je veux dire, moi, j'ai vécu toute la vie sur la Rive-Sud. Fait que mon histoire est ici sur la Rive-Sud, puis elle se promène, est encore vivante un peu partout sur la Rive-Sud. Ça se peut qu'on la croise souvent, mon histoire. Fait que il faut qu'elle la sache. C'est ça la réalité. Là. Fait que Fait qu'on va choisir un moment où on va le faire. J'aime bien, là, comme je vous dis, ça c'est du matériel que j'ai emprunté à Capitol Hill puis que Baptist Church puis qu'on a adapté. J'aime bien les conseils qu'il donne dedans, c'est-à-dire ça se peut que tu le confies à un bon conseiller, tu dis, regarde, c'est là que ça va se passer, j'aimerais ça que tu pries pour ça, j'ai beaucoup de peur par rapport à ça. Puis honnêtement, il y en a que c'est vraiment énorme les appréhensions qu'ils ont par rapport à ça. Fait qu'on va prier ensemble, on va prier pour se préparer à ce moment-là, puis on va s'en remettre entre les mains de Dieu. Mais c'est vraiment important de le faire. C'est vraiment important de le faire parce que vous ne voulez pas permettre un sentiment de trahison qui viendrait après dans le mariage. Puis c'est ça qu'on veut éviter. On fait une démarche où il y a beaucoup de communication, ça veut dire qu'on va passer par cette étape-là. Oui, ça va être progressif, mais dans mon cas, dans notre cas, après quelques mois de mariage, on a décidé qu'il y a un moment où on faisait ça, hein, je pense, où j'étais comme partagé mon histoire. Pardon? C'était même avant dans notre cas? Ah, tu vois, moi c'était comme tout et... Esther a dit que j'ai fait ça avant de la fréquenter. Probablement que je craignais. Hein? Ben oui, avant le mariage. Non, on parle dans les fréquentations. On parle dans les fréquentations. Mais on a fait ça dans une soirée, en gros, le plus gros. Fait que, bon, quelques conseils pratiques. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les détails. D'accord? Moi, il n'y avait pas plein de noms qui allaient sortir. On n'est pas allé dans les détails, mais je voulais qu'elles comprennent l'ampleur de mon passé. Puis qu'elles n'aient pas, en apprenant des choses, le feeling comme que. Dans le fond, j'ai voulu cacher cet aspect-là. D'accord? Mais on ne s'en va pas dans les détails, puis on s'entend que ce ne sera pas un ongoing discussion entre nous. Ce n'est pas un sujet qui va revenir constamment. Je n'aurais pas permis, c'est pas le cas avec Esther, mais je n'aurais pas permis, admettons, à Esther d'installer une espèce de mode de « je suis toujours en train de te checker parce que je connais ton passé ». Regarde, si c'est ça, oublie ça. Ma conversion est nette. T'as pas besoin d'être en train de checker mon passé tout le temps. Puis il faut qu'il y ait une confiance qui soit là. Donc, une fois qu'on a discuté de ça, on en discute très, très rarement après ça dans l'histoire de ce couple-là. Fait que dans notre cas, je pense qu'on a pris un soir, on a pris le temps de communiquer tout ça. Il y a eu deux ou trois discussions qui ont suivi pour dire, j'ai-tu bien compris ça? Oui, t'as bien compris ça. OK. On clarifie tout ça. Puis après ça, c'est pratiquement une question close. Pas entièrement, si vous dites « je ne veux plus jamais parler de ça de ma vie », bien, ça se peut qu'il y ait des éléments dans la dynamique du couple qui ressortent plus tard, puis que vous deviez y retourner là, d'accord? Ça se peut que j'arrive dans mon mariage, puis il y a des gens qui ont un passé, par exemple, je vais terminer sur cette illustration très graphique, il y a des gens qui ont un passé extrêmement actif sur le plan sexuel dans le monde avant de se convertir. Fait qu'ils se disent « regarde, moi, c'est certain, s'il y a des problèmes avec la sexualité dans le mariage, ça va être toi, ça ne sera pas moi, je connais mon histoire. » Il y a des couples qui arrivent. Les deux étaient dans le péché ensemble. Ils étaient actifs avant de se marier. Ils se marient, il n'y a plus rien qui marche. Okay. Ils étaient ensemble, le couple était ensemble. Tout allait bien. Bien, on s'entend, ils péchaient, là. Mais je veux dire, ça marchait leur patente. Ils se marient, ça ne fonctionne plus. On commence le counseling. Fait que tu peux pas. C'est pour ça que je dis, une fois que tu as raconté ton histoire, on s'entend que ce n'est pas un sujet qui revient constamment sur la table. Ça peut être extrêmement malsain comme curiosité, très destructeur dans le couple. Ça pourrait arriver qu'il survienne des choses plus tard puis qu'on doive aller là pour régler des trucs dans le présent. D'accord? On va s'arrêter ici avec un mot de prière puis on complète la semaine prochaine. Mais il y avait des bonnes questions. Je pense qu'on touchait quand même des sujets importants. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps ensemble. Merci pour la belle atmosphère de transparence, les questions franches qui sont posées, des questions concrètes, Seigneur, et je suis conscient pour être passé par le moi-même. Je suis conscient, Seigneur, qu'il y a des questions là-dedans qui font trembler parce qu'on n'est pas, on n'est pas fiers souvent de notre passé, on a une histoire, tout ça. On veut comprendre quelle est la place de la décision dans l'amour, quelle est la place de reconnaître l'autre, de l'apprécier pour ce qu'il est dans ses qualités, d'aimer une personne parmi toutes les autres, mais en même temps de comprendre que l'amour, c'est une décision. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre comment toi, tu nous aimes, afin qu'on puisse aimer, si tu nous appelles au mariage, Seigneur, de la même manière. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.